Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus par ce premier jour d'hiver. C'est sympa de se retrouver tous ensemble ce matin et puis au chaud, merci à tous ceux qui ont préparé ce culte. J'étais surpris lors du colloque de vendredi de voir le nombre de groupes, de sous-groupes, de groupes de tout ce qu'on veut qui sont là. C'est un bel engagement de toute la communauté. Merci pour la technique, merci pour les musiciens, pour les potes du dimanche, on va aussi penser à eux ce matin. Pour ceux qui ont préparé la Sainte Cène que nous allons partager tout à l'heure. Soyez aussi les bienvenus, ceux qui sont bien au chaud à la maison, peut-être sous une couverture. Vous avez de la chance, peut-être. Mais voilà, nous voulons être aussi en communion avec vous. Merci de nous suivre aussi via l'Internet. Soyez les bienvenus. Je crois que je n'ai pas tellement besoin de faire l'annonce en vous voyant ce matin masqué, mais je vais quand même la faire. C'est comme si on est en train de voler dans un long courrier, dans un avion qui va très loin, et puis le commandant vient de mettre son petit switch. Permettez-moi d'employer un petit peu cette image, l'aviation, c'est un petit peu mon dada. Et puis mettre ce switch, il y a tout d'un coup ding, il faut mettre les ceintures de sécurité, retourner à son siège. On arrive dans une zone de turbulence et le commandant le fait pour notre sécurité. Et voilà, on arrive dans une situation aussi avec cette pandémie, c'est un peu pareil. Alors, les nouvelles normes ou les restrictions sont sorties vendredi. Donc, elles commencent à partir demain, mais déjà, vous avez pris de l'avance. Merci. Et donc, on va remettre ce masque, on va se désinfecter, on va garder nos distances. Et puis, quand il y a la turbulence, ben, les hôtesses ne peuvent plus nous servir à boire ou à manger. Ça va être pareil pour l'après-culte. Mais rassurez-vous, on est en train de plancher sur une option B, de pouvoir faire quelque chose dès dimanche prochain à l'extérieur. Je pense qu'il faut serrer la ceinture, ça va passer, et rester confiant. En préparant ce culte ce matin, j'ai été touché par le verset 5 du psaume 40 qui va servir de texte pour la prédication de Philippe tout à l'heure. « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance » qui ne se tourne pas vers les arrogants et les partisans du mensonge. Ça m'a spécialement touché parce qu'en ce moment, depuis pas mal de temps, notre société est assez bouleversée. Elle passe par des moments tumultueux où le mensonge ne veut plus rien dire, où il y a la vérité contre vérité, il y a des fake news, des fausses vérités. C'est un peu contradictoire, fausses vérités. Et j'en passe, il y a beaucoup de théories de complot et tout, et ça peut paraître lourd, ou si c'est un individualisme qui sort vraiment, vraiment tellement fort. Et je suis surpris moi-même d'avoir ces sentiments qui bouillonnent en moi, qui surgissent. J'ai de l'agacement, ça commence à m'énerver, j'ai de la colère, j'ai peut-être aussi de l'anxiété. Je pense que je ne suis pas le seul. Je pense qu'on est tous un petit peu habité par ces sentiments. Ça vient obscurcir, obstruer le bonheur, la paix et la joie. Mais ce verset, il dit « heureux ». Est-ce que vous l'êtes ? Comment l'être ? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens heureux ? Ça se voit ? Malgré le masque ? Voilà, le verset 5, il m'encourage et me dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance ». Je t'ai regardé dans le dictionnaire du Larousse, hein, et puis la confiance, c'est une explication, c'est un sentiment que quelqu'un qui se fie entièrement, c'est quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Par exemple, notre amitié est fondée sur une confiance réciproque. Ben pour moi, cette confiance, je sais en qui je la mets. Et puis Jérémie 29, il y a un verset qui dit « Oh, oui, parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi et qui est comme toi, paré de sainteté et redoutable et digne de louange, opérant des prodiges. » Oh, c'est pas rien, on peut mettre notre confiance dans l'Éternel, dans ce Dieu qui nous voit, qui connaît notre situation et qui est là, qui veut nous rejoindre ce matin. Je vous invite à prendre du calme, à laisser un petit peu de côté toutes ces pensées qui nous assaillent. Puis il y a un cantique que je chantais quand on était gamin. C'est un vieux cantique, peut-être qu'il faudra qu'on le reprenne, peut-être avec une version un petit peu plus plus jazzy ou plus moderne, mais c'est contre les bienfaits de Dieu, pour ceux qui s'en souviennent. Quand on les étale, quand on les met devant nous, on verra combien il y en a, combien sont nombreux, et combien on voit que l'Éternel prend soin de nous. Quand on commence la liste, je pense qu'elle peut s'allonger. Et malgré tout ce qu'on vit en ce moment, soyons reconnaissants et essayons de compter les bienfaits. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voici ce matin rassemblés dans ta maison, rassemblés avec aussi tous ceux qui, de par le monde, se rassemblent autour de toi. Je te remercie parce que nous pouvons venir déposer nos soucis, nos peines. Nous pouvons venir nous ressourcer et renouer cette intimité que tu veux avec chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons raffirmer notre confiance en toi. Tu es notre soutien pendant ce temps de turbulence que nous affrontons à nouveau. Et nous voulons aussi te prier pour ceux qui sont aux commandes, nos autorités. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions avoir de la compassion pour eux. Nous ne comprenons pas toujours ces directives qui nous semblent parfois incohérentes ou bizarres. Mais Seigneur, nous faisons confiance. Tu veux leur donner ta sagesse, ton discernement. Nos autorités fédérales, cantonales, communales. Nous te prions aussi pour notre Église, notre conseil et nos pasteurs. Et nous te faisons confiance, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, d'être au milieu de nous et de nous parler ce matin. Amen. Voilà, je vous encourage à chanter de tout votre cœur. On peut laisser le masque, mais on peut quand même chanter. Merci à l'équipe de louanges et nous allons chanter trois chants. Nous invitons à vous lever.
Bonjour tout le monde. Le premier chant que nous allons chanter est un chant de délivrance. Il commence par « J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères. » Vase d'argile.
Sauver, oh, oh, oh. donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Ce deuxième chant est un chant de consécration. Il dit : je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie, oui, à toi, Jésus-Christ. Je chanterai gloire. Je viens t'offrir, Seigneur. Le dernier chant est un chant de confiance. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile, mon ancre et ma voile. Thank you.
tu étends mes ailes pour toucher les cieux.
Merci. Nous aurons encore l'occasion de chanter encore quelques chants tout à l'heure. Nous aurons aussi la joie de partager aussi le repas de la scène. Et aussi pendant ce moment-là, nous aurons l'occasion de prier communautairement à haute voix ou en silence pendant la distribution. J'invite Philippe, notre cher Philippe, qui va nous conduire dans la prédication. Rien ne peut nous détruire notre bel avenir. On vient de le chanter, c'est pas vrai ça? Voilà, je vais prier pour Philippe. Seigneur, merci pour Philippe que tu as préparé. Merci pour ce qu'il va nous apporter ce matin. Je te prie de le bénir, de l'inspirer, qu'il puisse être un porte-parole. Je te prie de le revêtir ton esprit ce matin pour nous apporter ce mot et notre confiance, nous la mettons en toi comme nous venons de le chanter. Nous demandons aussi de bénir les moniteurs des potes du dimanche et aussi les enfants en ce moment, que ton esprit soit aussi là présent parmi eux. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Amen. C'est pas grave. Merci de le signaler. Roxane, c'est vraiment pas un souci. Merci beaucoup d'être aux manettes derrière, fidèlement, dimanche après dimanche. La technique, ça a ses exigences, mais heureusement, je crois que nous en dépendons pas complètement. Merci. Je trouve qu'on chante des chants aux paroles incroyablement fortes. Des fois, je me dis, on aurait besoin que de salles le dimanche matin. Puis qu'est-ce qu'ils viennent encore parler, les pasteurs ? Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Enfin, on pourrait dire amen et bonne semaine. Moi, j'ai rien besoin de plus. J'ai rien besoin de plus que de savoir que le Dieu créateur m'aime de façon infaillible. Moi, j'aime ma femme de tout mon cœur, mais je suis tellement faillible. J'aime mes enfants de tout mon cœur, et puis des fois, ça tape à côté. Nous nous aimons les uns les autres, je crois vraiment, ça se voit. Puis des fois, on se loupe. Il m'aime de son infaillible amour chaque jour. Moi, j'ai besoin que de ça. Puis je vais quand même parler un coup. On entre dans le temps de l'Avent. Merci à Éléonore pour cette magnifique couronne que nous allons allumer dimanche après dimanche. Il y a aussi une très belle décoration sur le côté ici. Ça me fait juste du bien. La beauté fait du bien. Nous rentrons dans le temps de l'Avent. Un temps qui exprime l'attente. un temps entre ombre et lumière, entre promesse et accomplissement, un temps où les choses se précisent, un peu comme dans ce formidable livre qu'est la Bible, de la promesse à la réalisation. Et un jour, Jésus-Christ paraît, il est le dernier mot de Dieu. Les psaumes, au milieu de nos Bibles, au cœur de nos Bibles, sur la tranche de beaucoup de Bibles, les psaumes, c'est la partie de l'Ancien Testament qui porte le plus de traces de doigts. Enfin, la mienne, elle est relativement récente, mais souvent dans les Bibles qui ont quelques kilomètres au compteur, vous regardez sur les tranches des Bibles, et puis là, au milieu, il y a un peu plus de traces de doigts. Parce que c'est probablement le livre de la Bible que la plupart des chrétiens affectionnent particulièrement. Des psaumes d'adoration, donc. Des psaumes de louange, bien sûr. Mais pas que. Il y a des psaumes qui visent à instruire. Il y a des psaumes qui expriment une grande détresse devant Dieu. Il y a des psaumes qui exigent que Dieu fasse justice. Il y a des psaumes où l'auteur confesse son péché. Ce matin, j'aimerais donc méditer avec vous un psaume que nous lisons souvent pour sa partie confiance en Dieu. Mais un psaume qui contient bien d'autres choses que la confiance. C'est le psaume 40. Et une fois n'est pas coutume, nous allons le méditer deux fois, ce dimanche matin. Vous allez voir pourquoi. Et rassurez-vous, la première partie est un peu plus longue que la seconde. Nous avons un titre au verset 1. Ma parole, Roxane, tu fais des miracles. Merci. Nous avons un titre au verset 1. Au chef de cœur, psaume de David. Certains des psaumes de David font référence à un événement précis dans sa vie. Mais ce n'est apparemment pas le cas ici. Nous allons donc lire ce psaume en pensant à David, bien sûr, et à son expérience spirituelle en général. Mais pas seulement. Au chef de cœur. Au chef de cœur. Ça veut dire, quand on lit ça dans nos Bibles, que ce psaume, il est destiné à être chanté ou dit ou prié en public, au chef de cœur. Que ce soit le tabernacle, que ce soit le temple, ou que ce soit pour nous aujourd'hui, l'église. Mais en tous les cas, un psaume que nous sommes invités à dire ou à chanter en public, au chef de cœur. C'est là l'expérience de tout le peuple de Dieu qui s'exprime ici et que nous pouvons donc certainement, j'espère, reprendre à notre compte. C'est le psaume de David, nous verrons que c'est le psaume de Jésus et je vous propose que c'est notre psaume à nous aussi. Je commence à lire, verset 2. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher. Il a affermi mes pas. David était manifestement dans une situation périlleuse. Il tombait au fond d'un puits. L'image, elle est assez saisissante. C'est un des trucs qui m'a toujours foutu la trouille quand j'étais gamin, les puits. Mais David, il vit un truc là de périlleux. La destruction, la submersion le menace. Il s'enfonce dans la boue. Il n'a aucun point d'appui sous ses pieds. Et voilà que le Seigneur a répondu à sa prière. voilà que le Seigneur l'a délivré. Il est donc normal qu'il remercie le Seigneur. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins au mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, toi tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses. Et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre en est trop grand. Compte les bienfaits de Dieu. Voilà donc David. David est un témoin de la grâce de Dieu. Ce que Dieu a fait pour lui sera connu de beaucoup de gens qui, à leur tour, feront confiance à Dieu et passeront le témoignage de leur foi plus loin, jusqu'à nous. C'est pour ça que nous avons les psaumes. L'expérience personnelle de David, elle vaut donc pour d'autres. L'expérience personnelle de David, elle vaut pour nous. Elle est une leçon pour d'autres et elle est une leçon pour nous. Et voilà que David ajoute une note supplémentaire ici, que Roger a relevée. Faire confiance à Dieu implique de ne pas se tourner vers des gens orgueilleux et menteurs. Faire confiance à Dieu exige de marcher dans l'intégrité et dans la vérité, qu'on ne trouve pas chez les croyants d'entourloupes, de tricheries ou de fausseté. Les chrétiens sont des gens intègres. Jusque-là, la pensée principale, c'est donc la reconnaissance envers Dieu. C'est la louange. Mais maintenant, nous entendrons les paroles d'un engagement très conséquent. La slide suivante, s'il te plaît, merci. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Il ne vous étonne pas un peu ce verset ? Dieu n'aurait voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché ? Alors que les premiers livres de la Bible ne parlent quasiment que de ça. Holocauste, sacrifice, sacrifice pour le péché, offrande. Je crois que l'idée de David ici, c'est que l'on n'achète pas la bonté de Dieu. On n'est pas avec Dieu dans une relation donnant-donnant. Je ne peux pas acheter la bonté de Dieu. Je ne peux pas forcer Dieu à répondre à mes prières. Je ne dois pas imaginer qu'il faille offrir comme une récompense à Dieu. Lui filer un truc pour la peine qu'il s'est donnée pour moi. Ou encore lui proposer quoi que ce soit pour qu'il me soit tout d'un coup favorable. Ésaïe 64, verset 6, dit que même nos meilleures œuvres, même le meilleur du meilleur du meilleur que vous puissiez, que nous puissions donner à Dieu, même ça, c'est comme des vêtements souillés. C'est un des trucs qui me renverse. Ésaïe 64, verset 6. Parce que j'ai tellement l'impression, moi, que quand je fais un truc plus ou moins bien, à quelque part, Dieu me met un point de plus pour le jacuzzi dans le ciel. Mais non. Même ce que je fais de meilleur est entaché. Vous iriez, vous, filer à Dieu un sous-vêtement porté 10 jours. Même mes meilleures œuvres est comme un vêtement taché. Et puis, je ne vise pas non plus une relation d'égalité à Dieu, où je ne dois rien à personne, parce qu'au contraire, je lui dois tout. La bonté de Dieu nous pousse alors à faire sa volonté, à obéir à sa loi, celle que le Saint-Esprit a gravée dans nos cœurs. Et à ce moment-là, faire la volonté de Dieu n'est pas une contrainte, mais c'est un plaisir. Tu m'as ouvert l'oreille, dit le texte. En hébreu, c'est au pluriel. Tu m'as ouvert les oreilles. David veut dire là que Dieu lui a donné une oreille attentive. Que Dieu lui a donné une oreille de disciple, une oreille d'apprenant, justement pour obéir au Maître et au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit, David, « Voici, je viens. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Voici, je viens. » Il vient donc, David, pour écouter et pour servir. Et dans son cas, le service était très particulier quand même. David, quand il écrit ça, il est roi d'Israël. Un roi, il est là pour protéger son peuple de ses ennemis, pour faire respecter la justice, pour promouvoir le culte de l'Éternel, et en l'occurrence pour préparer la construction du temple. Dans le rouleau du livre, verset 8, dans le rouleau du livre, il est question de moi, dit David. Pourquoi il peut dire ça? Comment il sait, David, que dans le rouleau du livre, dans les écrits saints, il est question de lui? Eh bien, c'est que dans Genèse 19, dans Deutéronome 17, il est question, et c'est une prophétie à ce moment-là, du roi à venir, un roi issu de la tribu de Juda, un roi droit et juste. David voit donc dans les Écritures comment les plans de Dieu convergent vers lui. Il voit aussi l'énorme responsabilité que cela représente. Et il pense aussi alors, encore une fois, à sa responsabilité de témoin. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse, ton amour, ta fidélité, sans cesse me protégeront. De nouveau, David loue Dieu, de nouveau, il se porte en avant comme un témoin. Et puis tout d'un coup, le ton va changer. Voilà que des sentiments fluctuent. Vous savez, oui, vous savez, une vie spirituelle avec des hauts, et avec des bas. Une vie spirituelle où parfois ça va super bien, puis parfois ça va super mal, et puis il y a toute la zone intermédiaire entre gris clair et gris foncé. Des sentiments qui fluctuent. Une vie spirituelle avec des hauts et des bas, et c'est cela que nous voyons maintenant. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions m'accablent, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête, je n'ai plus de courage. David a donc été délivré d'une situation périlleuse. Le Seigneur a répondu à sa prière, Le Seigneur l'a délivré. David dit sa reconnaissance. Et voilà que tout d'un coup, il est conscient de nombreux malheurs encore. Qui plus est, il semble rattacher ses malheurs à ses propres fautes. Cela correspondrait bien à ce qui s'est passé après son adultère avec Bathsheba, après le meurtre d'Uri, le mari de Bathsheba. Cela correspond peut-être à bien d'autres situations encore dans la vie de ce roi. Vivre la joie de la délivrance, donc, mais se trouver assailli de nouveaux malheurs et accablé par un sentiment de culpabilité. C'est très réaliste, cela. C'est très réaliste. C'est très humain, ça. Et il y a de quoi perdre courage, parfois, comme David. Comment s'en sortir, alors ? Vers qui se tourner quand nous vivons ces hauts et ces bas ? Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Et puis sa prière devient encore plus combative. Les malheurs de David semblent avoir un visage. Peut-être la slide suivante, Roxane. Ouais, c'est très bien comme ça, merci. Non, l'autre, excuse-moi. C'est parfait, merci. Veuille, Éternel, me délivrer, Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'il soit couvert de honte, rempli de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Nous pourrions avoir le sentiment que dire des choses pareilles, c'est contraire à l'esprit du Nouveau Testament, n'est-ce pas ? Nous pourrions même nous sentir un peu supérieurs à David qui a osé prier de cette façon-là quand même. Je crois qu'il faut regarder les choses un peu plus simplement. Si David est délivré, c'est justement cette prière-là qui sera exaucée. Les comploteurs qui en veulent à sa vie seront mis en échec et couverts de honte. Les ricaneurs riront jaune. Les opposants battront en retraite. Vous savez, la victoire des uns impliquera toujours la défaite des autres. La délivrance d'un fidèle, d'une fidèle, accablée de malheur, implique la déconfiture de ceux qui veulent lui faire du mal. Quand Dieu fait acte de justice, c'est du bonheur pour certains et un jugement pour d'autres. Si nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, si nous prions ça, alors nous prions la même prière que David. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi ils se réjouissent, et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment « Que l'Éternel est grand !» Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Et dans les derniers versets du psaume, voilà que la boucle est bouclée, ou presque. Nous retrouvons une invitation à la joie, nous retrouvons un élément de témoignage, nous retrouvons une expression de confiance. Le Seigneur prend soin de moi. Toi, tu es mon secours et mon libérateur. Mais ce n'est pas tout à fait la fin. Ce n'est pas terminé. Mon Dieu, ne tarde pas. On prie, on ouvre les yeux, on se lève, on reprend ses occupations et on est dans l'attente de sa réponse. Si telle est notre situation aujourd'hui, nous sommes en bonne compagnie avec David. Mon Dieu, ne tarde pas. arrivé à ce point, certains d'entre vous sont peut-être un peu inquiets. J'avais annoncé que je ferais deux lectures de ce psaume, puis je n'en ai fait qu'une pour l'instant. Mais rassurez-vous, ça va être plus rapide. J'ai dit que ce psaume de David n'est pas seulement une prière personnelle, elle est aussi une prière communautaire. Pour le temple, plus tard pour la synagogue et aujourd'hui pour l'Église. Une prière pour l'Église. Cela veut dire que le Seigneur Jésus lui-même a lu et a médité ce psaume je ne sais pas combien de fois. Qu'est-ce que ce psaume veut dire pour lui? Il est, lui, le fils de David. Il est le Messie. Il est loin de l'Éternel. Il est le roi de la tribu de Juda. Il est celui dont les textes de l'Ancien Testament parlaient. C'est vers lui que ça pointait. Comment va-t-il, Jésus, s'approprier les paroles de son aïeul? Jésus a prié en utilisant ces mots. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il l'a dit. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication, il m'a fait remonter du puits de la destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, il a affermi mes pas. Je te le retrouve de suite, j'ai un petit problème de notes, mais ça vient. Bien vu, Denise. En tous les cas, on y viendra. Au cours de sa vie terrestre, le Seigneur a pu connaître tant de situations de détresse. Mais à notre connaissance, aucune qui mériterait d'être exprimée aussi fortement que cela. Sauf à la fin. À Gethsémané. Puis à la croix. Avec ce psaume-là, Jésus il a pu anticiper le pire dans sa vie et exprimer sa confiance au moment du pire. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Parce qu'après le pire, il y aura la résurrection. Et de nombreuses personnes, à la suite de la résurrection, mettront leur confiance en l'Éternel. Nous en sommes. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu m'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Le prophète Esaïe dit que le Messie, le serviteur de l'Éternel, a une oreille de disciple. C'est que Jésus vient dans un corps humain pour faire la volonté du Père. Dans le rouleau du livre, il est question de lui. Dans tout l'Ancien Testament, il est question de lui, depuis Genèse 3,15, au dernier mot de l'Ancien Testament en Malachie, il est question de lui. Il sait donc ce que le Père attend de lui. Il connaît la description terrible de sa mort, parce que Jésus connaît Esaïe 53. Et il dit en connaissance de cause, « Je viens pour faire ta volonté. » De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions m'accablent, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. C'est que le fils de David vit ce qu'a vécu David. Mais ce sont nos péchés qu'il a portés. Mais il en a été à ce point accablé par nos péchés. Qu'il peut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Jésus lit ce psaume, je pense que ce ne sont pas ses propres péchés qui l'accablent, sinon je dois revoir complètement ma théologie, mais les nôtres, qu'il assume, qu'il fait sien, qu'il prend sur lui pour notre délivrance et pour la gloire de Dieu. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Et c'est ce qui s'est passé, non ? Rejeté et humilié par d'innombrables ennemis, Jésus a été justifié. Comment nous savons que Jésus a été justifié ? Eh bien, il est ressuscité. Il est innocenté, Jésus, par sa résurrection d'entre les morts. Pour reprendre alors les mots d'Ésaïe avant de conclure. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. Je ne serai pas dans la honte. Il est tout proche celui qui me justifiera. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Qui me condamnera ? Mes adversaires tomberont tous en loques comme de vieux habits. Les mythes les dévoreront. Jésus sait qu'il sera justifié. Et Jésus sait qu'il sera vainqueur. Encore dans Ésaïe. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Elle est là. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel, car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Vous vous demandez ce que Jésus pense de vous ? Ça vous arrive de vous demander ce que Dieu pense de vous ? Ce texte d'Ésaïe 53, 10 à 11, dit que quand Dieu regarde la descendance de Jésus, le fruit de son salut, il est comblé. N'en rajoutez pas. Acceptez vos limites. Acceptez les failles, les inconsistances, les incohérences. On est tous en route, on va encore essayer de faire quelques progrès. Mais en attendant, s'il vous plaît, souvenons-nous que quand Dieu nous regarde grâce à Jésus-Christ, il est comblé. Ce psaume 40, il est décidément pour nous. Dans nos moments de joie, dans nos malheurs, dans nos détresses, même quand nous avons fauté, quand nous attendons une réponse de la part de Dieu. Ce psaume 40, il est là aussi, pour que nous disions que Dieu est bon avec nous, qu'il nous relève, qu'il nous restaure, qu'il nous sauve. Et ce psaume nous invite à dire à Dieu, « Voici, voici, je viens pour faire ta volonté. » Quand nous disons ça, quand nous prions ça, quand nous chantons ça, « Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Nous le disons avec David. Et nous le disons avec Jésus. Amen.
Pour préparer ce temps de communion avec le Seigneur, la scène, nous vous invitons à chanter un chant attaché à la croix, si vous voulez bien vous lever.
Je vous invite à reprendre place. Merci beaucoup. L'auteur des Hébreux écrit ces quelques versets au chapitre 10, à partir du verset 5. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices sur le péché. On pourrait remplacer le péché par ne pas savoir rester près de Dieu ou de s'échapper de sa main bienfaisante. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et c'est en raison de cette volonté que Dieu, la volonté de Dieu, que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Nous avons l'occasion maintenant de continuer dans ce qui nous a été présenté, apporté par Philippe et par ces beaux textes, par ce psaume, et nous allons le vivre plus concrètement en partageant le pain et le vin. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, prit du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit : Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. En effet, toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Je vous invite à prier. Au matin de ce jour, Seigneur, je viens vers toi. Tu m'attends, tu m'accueilles et je me laisse aimer par toi. Tu es celui qui m'entraîne vers l'avant. Tu me prends par la main. Ah, j'ai peur de ne pas y arriver, de ne pas savoir rester près de toi et de m'échapper trop vite de ta main. Mais ta grande patience me précède. Et jamais tu ne te lasses. Avec toi, je me sens en sécurité. Voici tous les secrets, tout ce qui me semble insurmontable, je te les donne. Au matin de ce jour, je choisis avec toi la confiance. Tu es mon Dieu. J'invite les personnes qui vont nous aider à servir les éléments. Nous allons passer dans les rangs et nous tiendrons les éléments. Faites-moi signe si vous voulez vous exprimer à haute voix. Je passerai avec le micro. Seigneur, merci pour ces éléments, pour ce souvenir, ce pain, ce vin. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous permets de vivre avec toi maintenant. Nous te bénissons. Amen. Je vous invite à chanter en conclusion de ce moment de communion, notre Père qui est aux cieux. Je vous invite à vous lever. Ensuite, nous aurons les annonces et l'envoi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je viens juste vous parler de deux, trois choses qui se passent dans notre église. Premièrement, on a commandé une cinquantaine de ces calendriers de l'Avent pour l'église et sont à disposition sur la table de la désinfection à la sortie. Ce sont des calendriers édités par la Ligue pour la lecture de la Bible pour les enfants. Et ils racontent... Ils ont pour titre « Tous ces Pères Noël, ça m'énerve » et racontent pour les enfants une histoire qui raconte l'histoire justement de Noël. Donc si vous avez des enfants ou si vous connaissez des familles qui seraient éventuellement intéressées, n'hésitez surtout pas à vous en servir, c'est gratuitement à disposition sur les tables à la sortie. Et j'aimerais aussi rappeler que ce vendredi, pour les 11-15 ans, il y a le catéchisme avec l'équipe motivée de Philippe, Joël, Mireille et Rebecca, et que si vous connaissez encore des enfants entre 11 et 15 ans qui seraient intéressés à participer au catéchisme, n'hésitez pas à vous adresser à l'une de ces quatre personnes. Merci beaucoup et bon dimanche.
Je vous invite à vous lever. Que la faveur du Dieu fort qui nous aime, qui nous a sauvés et qui nous veut à lui, vous accompagne, nous accompagne pendant cette nouvelle semaine. Que la grâce et la paix reposent sur vous et l'accompagnement millimétré du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen et belle semaine.